Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire, offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique Podcast, bonne écoute et belle découverte.
Une nuit, 21h, un soir de juillet. Le soleil vient de glisser derrière l'horizon. Il fait sombre, l'air est plus frais et plus humide. Les papillons de nuit, les grenouilles, les salamandres, qui se tenaient à l'abri des grosses chaleurs, sortent de leurs cachettes. Les lapins, les rouges-gorges, les coccinelles, tous ceux qui vivent le jour, regagnent leur abri. Dans le jardin, c'est l'heure de pointe, le grand chassé-croisé du crépuscule. Publié par les éditions du Ricochet, ce bel album original, à visée documentaire, propose une première approche où se mêlent données scientifiques et rêveries. Son grand format carré devrait séduire les jeunes lecteurs à partir de 3-4 ans. L'illustration y tient un grand rôle et invite les enfants à laisser libre cours à leur imagination. L'autrice, océanographe de formation et journaliste scientifique spécialiste des questions de biodiversité, nous plonge dans une traversée de la nuit pour lever quelques petits secrets de la flore et de la faune du jardin et au-delà. Pour s'ouvrir, les fleurs de la nuit attendent le coucher du soleil. Quand la lune les éclaire, leurs corolles claires se voient comme des réverbères. Attirés par leur parfum, les papillons de nuit butinent leur nectar et se chargent au passage de grains de pollen. Ils en feront tomber dans la prochaine fleur qu'ils iront butiner. Le texte est simple. Il fait écho aux images qui couvrent de grandes doubles pages où l'illustratrice, Emmanuelle Housset, a glissé des détails que les enfants pourront savourer. Ils auront plaisir aussi à retrouver sur les deuxième et troisième pages de couverture les animaux rencontrés au fil de cette promenade poétique. Des jeux d'ombre animent en douceur ce clair-obscur poétique et participent à la beauté des images. Les animaux nocturnes s'agitent, chassent et batifolent aussi. On entend le rossignol pousser la chansonnette. Les sangliers sortent de leur cachette. Les chauves-souris crient pour que l'écho leur indique leur proie, pendant que la chouette vole en silence pour que personne ne l'entende arriver. Le hérisson ne craint personne, armé de tous ses piquants. Dans la haie, c'est lui le plus bruyant. Grâce à la lueur verte qui orne son abdomen, Madame Verluisant veut être repérée, mais seulement par le mâle. Qui saura l'aimer. Si un intrus s'approche, elle éteint illico sa robe de fiancée. Dans ce décor luxuriant, tout un monde bouge, dessiné dans un style mi-naïf, mi-réaliste, éclairé par la lune et les étoiles. Le petit lecteur verra ces animaux, mais d'une manière fugitive, se livrer à quelques-unes de leurs occupations et découvrira certaines de leurs habitudes. C'est suffisant pour aider l'enfant à regarder mieux autour de lui. Même la nuit, il commence à comprendre comment fonctionne la nature et se prépare ainsi à mieux la respecter. L'histoire débute et se termine par un chassé-croisé où se côtoient animaux nocturnes et diurnes en une danse incessante. Comme la terre, dit l'autrice. La terre danse. En un an, elle fait le tour du soleil. Et puis, elle recommence. En même temps, la terre tourne sur elle-même et avec elle tournent les montagnes, les forêts, les océans, tournent les plantes, les animaux. Tiens, ce jardin, par exemple, il tourne aussi. La moitié de ses journées, il les passe face au soleil. C'est le jour. L'autre moitié, la lune pâle, la voie lactée, les étoiles lointaines et Vénus brillent comme des pierres précieuses au-dessus des arbres, des fleurs et des légumes. C'est la nuit.
Eh bien, moi aussi, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un documentaire. Un petit documentaire simple, accessible à partir de 7-8 ans. L'incroyable destin de Thomas Pesquet, astronaute, par Pierre Hurtel et Erwan Surcouf, publié chez Bayard Jeunesse dans la collection Les Romans Doc. Thomas Pesquet est un personnage qui fascine les enfants. Non seulement il est devenu astronaute et a participé à une mission dans la Station Spatiale Internationale, mais surtout, il a voulu partager son expérience avec le grand public. Et sa disponibilité, son désir de pédagogie, ont créé un véritable engouement pour son aventure et, à travers elle, pour l'exploration spatiale en France. Pendant ses 6 mois sur la station, Thomas Pesquet a pris sur son temps libre plus de 85 000 photos de la Terre, de la vie à bord ou des tâches quotidiennes de l'équipage. Il a publié quotidiennement les plus réussis, environ 2500, sur les réseaux sociaux. La beauté de la Terre, vue du ciel à travers ses clichés, et la simplicité avec laquelle il a partagé son aventure ont conquis les foules. Il s'est fait aussi à cette occasion le porte-parole des défenseurs de la nature et de la Terre sur laquelle nous vivons. Tout cela en fait un personnage très positif et très aimé des enfants. Le petit documentaire de Pierre Hurtel nous raconte de manière romancée le parcours de Thomas Pesquet, depuis ses études d'ingénieur à Toulouse, ses débuts de pilote, jusqu'à sa sélection parmi les 8000 de candidats qui ont tout fait pour embarquer à bord de l'ISS. En effet, comme beaucoup d'enfants, Thomas Pesquet rêvait de devenir spationaute. Mais, comme très peu de gens, il va réaliser ce rêve. Chapitre 1, le rêve d'un enfant. « Papa, on dirait que je serais un astronaute. » Les yeux de Thomas brillent d'excitation. « Regarde, et si on faisait un vaisseau spatial avec ses cartons ?» lui propose son père, professeur de maths. À 4 ans, jouer à l'astronaute est l'activité préférée de Thomas. Dans sa chambre, il aménage son vaisseau avec des coussins, se sert d'un manche à balai pour piloter. Il s'amuse tellement qu'il en oublie même d'aller manger. « Si tu ne viens pas à table, on va le jeter ton engin, » menace sa mère. Et un jour, c'est arrivé. Le vaisseau est parti à la poubelle. 40 ans plus tard, Thomas s'en souvient encore. En Normandie, où il est né, le petit garçon aime aller à l'école. Il suit les traces de son grand frère, Baptiste, passionné d'informatique et d'aviation. Jusqu'au lycée, il ne rêve que d'une chose, devenir pilote d'avion militaire. « Ce sont les avions les plus modernes et les plus rapides, » s'enflamme Thomas. « Oui, mais un jour, tu devras peut-être lancer un missile, » lui répond Baptiste. Thomas réfléchit. Effectivement, l'armée n'est peut-être pas ce qui lui convient le mieux. Après le bac, il suit de brillantes études scientifiques et à 24 ans, il intègre une école d'ingénieurs à Toulouse. Toulouse, la ville de l'aviation et du domaine spatial. C'est l'endroit idéal pour Thomas qui devient pilote de ligne. Mais son rêve est toujours là et il s'interroge. Est-ce qu'un jour, je pourrai voir la Terre depuis l'espace ? Il a 30 ans en 2008 quand se présente la chance de sa vie. L'Agence spatiale européenne recrute 6 astronautes. Grâce à ses études et à son expérience de pilote, Thomas peut postuler. Bien entendu, il n'est pas le seul. 8000 dossiers de candidature venant de toute l'Europe sont arrivés à l'Agence spatiale. Un record. D'emblée, la sélection est très sévère. Seuls 1000 candidats sont admis à passer la première épreuve. Thomas en fait partie, une première victoire. La première qualité d'un astronaute, c'est de pouvoir s'adapter à des situations dangereuses et inattendues, expliquent des spécialistes aux candidats. Surtout, il faut avoir un bon esprit d'équipe et ne pas montrer d'agressivité. Ça tombe bien, c'est le portrait craché de Thomas et sa motivation impressionne. En février 2009, il se soumet donc pendant 2 jours à des examens médicaux très poussés. Les médecins vérifient son cœur, sa vue, sa respiration. Ils l'examinent de la tête aux pieds. Le moindre problème de santé entraînerait sa mise à l'écart. L'exigence est très élevée. Mais Thomas aborde l'épreuve avec confiance. Il a de la chance, il a toujours eu une santé de fer. Les épreuves s'enchaînent et à chaque étape, des candidats sont éliminés. Après un dernier test de logique et de mathématiques, l'agence spatiale doit choisir parmi les 10 meilleurs candidats les 6 qui deviendront astronautes. Tous pourraient être recrutés. La différence va se faire sur de minuscules détails. En attendant de connaître le choix de l'agence, Thomas retourne aux commandes de son avion de ligne. Mais il ne pense plus qu'à ça. Fera-t-il partie des 6 heureux élus ? C'est par un beau jour de mai qu'il apprend la nouvelle. Il est sélectionné. Il va devenir astronaute, son rêve d'enfant commence à devenir réalité. À l'intérieur des chapitres romancés se trouvent des encarts purement documentaires. L'exploration spatiale depuis la naissance de Thomas Pesquet, la préparation à la mission spatiale. Je ne résiste pas à vous lire quelques extraits de l'affiche intitulée « Bienvenue à bord de la station spatiale ». La vie de Thomas Pesquet dans l'espace ressemble à celle d'un ingénieur, infirmier, plombier, marathonien, scaphandrier. Il doit être capable de tout faire, ou presque. Ingénieur, la moitié du temps passé dans la station spatiale est consacrée à des expériences scientifiques. Elles sont très variées et concernent le médical, l'informatique, de nouveaux matériaux, car l'impesanteur est difficile à reproduire sur Terre. Plombier, les astronautes doivent connaître chaque partie de la station et être capables de la réparer ou de remplacer certaines pièces à l'aide de matériaux envoyés depuis la Terre. Scaphandrier, enfiler ou retirer une combinaison spatiale demande beaucoup d'efforts et de temps. Il faut d'ailleurs l'aide d'un autre astronaute. Infirmier, la station spatiale est équipée de 700 kg de matériel médical, des pansements aux appareils de dentiste. Dans l'espace, les astronautes doivent toujours pouvoir se soigner eux-mêmes. Marathonien, les astronautes doivent faire chaque jour du sport, mais en flottant, ce n'est pas facile. Par exemple, la course à pied se fait en étant attaché à un tapis roulant, lui-même accroché à un mur. On court à la verticale. Ça y est, Thomas Pesquet et deux autres spationautes sont arrivés à bord de la station, accueillis par trois autres occupants qui sont déjà là depuis un certain temps. Vivre dans la station, c'est comme habiter dans une machine à laver en marche, s'esclave Peggy. Sauf qu'on n'en ressort pas plus propre. Pendant quelques instants, ils écoutent. « Tu vois, Thomas, il y a du bruit en permanence, grimace-t-elle. C'est à cause de tous les appareils qui fonctionnent 24 heures sur 24. Mais tu vas t'y faire. Viens, suis-moi. On continue la visite. » Peggy est une habituée. À 56 ans, c'est la troisième fois qu'elle séjourne à bord. Plus loin, elle lui tend un petit masque en tissu pour mettre sur ses yeux. « Prends ça, ça sera très utile pour dormir, » dit-elle. « Comme tu le sais, nous tournons à très grande vitesse autour de la Terre. Tu pourras compter sur 16 levées et 16 couchers de soleil par jour. Justement, voilà ta chambre, tu vas voir, il n'y a pas beaucoup de place. » L'astronaute français sourit, il ne peut même pas étendre ses deux bras dans sa chambre spatiale. Et les 6 prochains mois, il dormira debout, en flottant dans son sac de couchage fixé à un placard. Les premiers jours, Thomas expérimente de nouvelles sensations. En raison de l'impesanteur, les voyageurs de l'espace ressemblent un peu à des hamsters. Dans sa chambre, Thomas communique depuis son ordinateur avec Anne sur Terre. « Ma tête est toute rouge et mes joues sont gonflées parce que mon cœur envoie trop de sang vers le haut du corps », explique-t-il à sa compagne. Elle voit son visage en direct sur un écran du Centre européen des astronautes. Il y a aussi d'autres choses, mais ça, il ne lui en parle pas. Par exemple, depuis son arrivée, Thomas a souvent envie de vomir. Heureusement, Oleg l'a déjà rassuré. Ça ne va pas durer. Son corps va s'adapter à l'impesanteur. Malgré tout, Thomas prend rapidement ses repères. Son emploi du temps est très chargé. Il se réveille à 6 heures et prend son petit déjeuner avec le reste de l'équipage. Puis à 7 heures, il communique avec la base sur Terre pour recevoir le planning du jour. Pendant la moitié du temps de travail, l'équipage fait de la maintenance. Et pendant l'autre moitié, il poursuit des recherches scientifiques. Et cela va donc durer 6 mois. La petite collection des romans doc de chez Bayard propose d'autres titres fort intéressants. L'incroyable destin de Galilée, qui a révolutionné l'astronomie, d'Howard Carter à la découverte de Toutankhamon, de Pasteur qui inventa le vaccin contre la rage, d'Einstein ou de Darwin. Mais elle s'intéresse aussi à des personnages moins connus et qui, comme par hasard, sont souvent des femmes, telles que Katherine Johnson, mathématicienne de génie à la NASA, d'Anita Conti, pionnière de l'océanographie, Jane Goodall qui a passé sa vie à étudier les chimpanzés. À mettre entre toutes les mains pour parfaire la culture scientifique de vos enfants, et pourquoi pas pour leur donner envie de suivre ces extraordinaires exemples.
Thème Radio, la plus locale des stations auboises.